Bienvenue pour cette analyse du climat parisien. On va explorer ensemble ce qui rend le temps à Paris si particulier, quoi.
On va s'appuyer sur pas mal de données, d'observations historiques.
Oui, bonjour. C'est vrai que Paris a ce côté un peu unique niveau météo.
Alors, on dit souvent que Paris a un climat, océanique dégradé. Concrètement, ça veut dire quoi ?
Ça veut dire qu'on sent bien l'influence de l'océan, forcément. Les vents d'ouest dominent, ça amène de la douceur, de l'humidité.
Mais moins qu'au bord de la mer, j'imagine.
Voilà, exactement. Dégradé, ça signifie que cette influence s'atténue avec la distance. Du coup, les contrastes entre saisons sont plus marqués qu'à Brest, par exemple.
D'accord. Donc des étés quand même assez chauds, vers 19,7 degrés en moyenne, c'est ça ? C'est ça. Et des hivers qui restent globalement doux, oui, autour de 5,4 degrés Celsius en moyenne. Avec des pluies fréquentes, mais pas forcément très intenses. Moins que sur la côte, d'ailleurs.
Et on sent aussi un peu l'influence du continent, parfois, avec des pics de chaleur ou de froid.
Tout à fait. Mais l'élément vraiment spécifique à Paris, c'est surtout l'urbanisation massive. Ça crée ce fameux îlot de chaleur urbain.
Ah oui, l'îlot de chaleur. On en entend beaucoup parler. C'est juste une petite différence ou ça change vraiment les choses au quotidien?
Ah non, ça change vraiment la donne. Surtout la nuit, en fait. En moyenne, les températures minimales à Paris sont 2 degrés plus élevées que dans les zones rurales ou forestières juste à côté.
2 degrés en moyenne déjà?
Oui. Et cet écart, il peut grimper bien plus. Les nuits d'été, par exemple, sans vent, sous ciel clair, la différence peut atteindre 4 degrés, voire plus dans certains coins très denses.
4 degrés? C'est énorme! Ça explique pourquoi les nuits d'été peuvent sembler si étouffantes en plein centre, même quand la canicule est passée.
Exactement. C'est la chaleur emmagasinée par les bâtiments, le bitume qui est relâché la nuit. On a des exemples assez frappants de cet effet combiné.
Ah oui, comme quoi par exemple?
Tenez, le matin du 17 avril 2014, il faisait 10,6 degrés Celsius au parc Montsouris, donc dans Paris.
Oui.
Et au même moment, à Beauvais, qui n'est pas si loin au nord, il faisait moins 1 degré.
Moins 1? Ça fait plus de 11 degrés d'écart?
Voilà, plus de 11 degrés. C'est l'îlot de chaleur parisien combiné à des conditions météo locales, un ciel clair favorisant le rayonnement nocturne en campagne. C'est saisissant.
Incroyable! Et si on regarde les autres aspects du climat parisien, le soleil, la pluie, on a cette image de la grisaille parisienne. C'est justifié?
Alors, pour l'ensoleillement, oui, c'est relativement faible. Environ 1690 heures par an en moyenne. C'est moins que la moyenne française, d'où ce ciel souvent un peu laiteux, voilé.
D'accord. Et la pluie? Il pleut tout le temps à Paris?
Non, pas tout le temps. Mais il pleut souvent, oui. Environ 111 jours par an en moyenne. Mais paradoxalement, les quantités annuelles sont modérées. 637 mm. C'est moins qu'à Biarritz, par exemple.
Ah oui, c'est contre-intuitif.
C'est que les pluies sont souvent fines, ce fameux crachin parisien. La répartition est aussi très régulière sur l'année. Un petit minimum en février, un petit maximum en mai avec les orages.
Justement, les orages, il y en a beaucoup ?
Environ 18 jours par an, surtout de mai à août. Et la neige, c'est une douzaine de jours par an en moyenne, mais elle tient rarement au sol dans Paris intramuros, à cause de ?
De l'îlot de chaleur, encore lui.
Exactement. Et le vent, lui, il est comment en général ?
Plutôt modéré, venant majoritairement de l'ouest ou du sud-ouest. Bon, sauf exception mémorable, bien sûr.
Oui, on pense tous à la tempête de décembre 1999. Des rafales à 169 km/h à Montsouris, c'était historique. Et bien plus haut sur la Tour Eiffel, on dépassait les 220 km/h.
Terrifiant.
Si on prend un peu de recul maintenant, sur le long terme, on voit une évolution ?
Au-delà de cet îlot de chaleur qui s'intensifie sûrement ?
Oui, très clairement. On a la chance d'avoir la station des Paris-Montsouris, avec des données qui remontent loin, jusqu'au 19e siècle. Et là, la tendance au réchauffement est nette.
On le voit sur les courbes ? Oui, très bien. Avec une accélération assez marquée, depuis les années 1990 d'ailleurs. Un chiffre qui parle bien, le nombre de jours de gel par an.
Ah oui, entre 1881 et 1910, on avait en moyenne 56 jours de gel par an. Sur la période 1971-2000, on est tombé à 25 jours.
Moins de la moitié. C'est énorme comme évolution. Ça, les gens ont dû le sentir, non ?
Ah oui, c'est une évolution concrète. Et ça se voit aussi sur les événements extrêmes, notamment les vagues de chaleur.
Les canicules. Paris en a connu des sévères historiquement. Hein.
Oh oui, il y a eu des épisodes très anciens et très meurtriers, comme en 1718-1719. Plus près de nous, on se souvient de 1911, 1947, 1976 et bien sûr 2003.
2003, lui. Et le record absolu de chaleur, il date de quand?
Il est très récent. 42,6 degrés centigrades, mesuré le 25 juillet 2019. C'est du jamais vu. On a eu aussi 40,5 degrés centigrades en juillet 2022 et on avait déjà eu 40,4 degrés centigrades en juillet 1947. 42,6, c'est ahurissant pour Paris. Et le froid extrême, à l'inverse.
Il se fait de plus en plus rare. Le record absolu de froid, c'est moins 23,9 degrés Celsius, mais ça date du 10 décembre 1879. On n'a plus vu ça depuis très longtemps.
Et on a même eu des phénomènes plus étonnants.
Oui, il y a eu une tornade en 1896. Elle a traversé Paris, du jardin du Luxembourg jusqu'à la Villette. Des rafales estimées à 220 km/h, 5 morts. C'est rarissime pour la région.
Une tornade?
Incroyable. Bon, si on regarde vers l'avenir maintenant, que disent les projections pour la fin du siècle? Ça va continuer comme ça?
Ben, oui, et ça risque même de s'accentuer. Les modèles climatiques pointent vers un climat parisien encore plus chaud. Beaucoup plus de jours estivaux, au-dessus de 25 degrés, et surtout de jours très chauds, au-delà de 30 degrés.
Et les canicules?
Plus fréquentes, plus longues et plus intenses. Certains scénarios, notamment si on ne réduit pas fortement nos émissions de gaz à effet de serre, suggèrent qu'un été comme celui de 2003 pourrait devenir un été normal d'ici 2070 ou la fin du siècle.
L'été 2003, la norme. Ça donne le vertige quand même.
Oui. On pourrait avoir une ou deux canicules par an, qui pourraient durer plusieurs semaines, et les hivers, eux, continueraient de s'adoucir et seraient probablement plus arrosés.
Donc pour résumer, le climat de Paris, c'est cette espèce de mélange entre l'influence océanique qui s'estompe, cet énorme effet de l'urbanisation qui crée une bulle de chaleur.
C'est ça.
Et par-dessus tout ça, le réchauffement climatique global qui vient amplifier les choses, surtout les extrêmes chauds.
C'est une très bonne synthèse, oui. Et comprendre tout ça, c'est essentiel pour réfléchir à comment adapter la ville, hein. Comment on rafraîchit les rues, comment on adapte les logements, comment on aide les Parisiens à vivre avec ces nouvelles conditions qui s'installent pour de bon.
Absolument. Et ça nous amène à une dernière pensée, peut-être. Au-delà des degrés Celsius et des millimètres de pluie, comment est-ce que cette transformation profonde du climat parisien change ou va changer notre façon de vivre, de ressentir, de percevoir cette ville au quotidien, hier, aujourd'hui et surtout demain?
C'est la grande question, en effet. Ça touche à notre rapport intime à la vie.